Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Tout pile. Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC, c'est l'Intégral Sport jusqu'à 19h avec l'excellent, l'immense Stephen Brun, membre de la Dream Team RMC Sport. Salut Stephen.
Salut Benoît, salut tout le monde.
C'est un peu chaud là à Paris aujourd'hui là.
Très chaud, vivement demain que ça baisse un petit peu parce que la journée a été compliquée.
Plus de 40 degrés, c'est le cas un peu partout en France. Effectivement, les températures vont baisser.
Encore nous, on n'a pas pédalé pendant 80 minutes.
C'est vrai, on pourra en reparler d'ailleurs de l'étape du Tour, la 16e qui vient de s'achever avec la victoire d'un Canadien, Hugo Hull. On en parlera à 18h30 avec Cyril Guimard, un statu quo au niveau du classement général. À la une de l'Intégral Sport, Stephen, l'OM, évidemment l'Olympique de Marseille. Le recrutement s'accélère, présentation des trois premières recrues ce midi, Gigot, Touré et Mbemba. L'occasion également pour le président Longoria de confirmer les accords de principe pour Jonathan Clauss, Ruben Blanco ou encore Luis Suarez. Voilà, Marseille qui accélère un petit peu au niveau du mercato. Justement, le mercato, on en parle à 18h15 avec Timothée Mémon. Neymar a été proposé à Manchester City, une info qu'RMC Sport peut vous confirmer. On en parlera donc d'ici un gros quart d'heure. Et puis à 18h40, direction Eugene, les États-Unis, les championnats du monde d'athlétisme. Aurélien Tiercin est sur place. Il sera en compagnie de Mehdi Belhadj, finaliste du 3000 mètres steeple. Hier, on pourra revenir sur la course avec lui. C'est parti pour Intégral Sport. Avant de démarrer et de filer à Marseille, Stephen, on prend la direction de Bordeaux. Une journée importante pour l'avenir des Girondins. Je rappelle que le club a été rétrogradé en national en raison de ses dettes. Passage devant le CNOSF qui est prévu jeudi. Il y avait un moment important aujourd'hui. C'était le passage, cette fois-ci, devant le tribunal de commerce. On va en parler avec Nicolas Pollorsi qui est de retour de vacances, notre correspondant dans le sud-ouest. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tout le monde. Ouais, je suis tout bronzé.
Ah, et bah, pas autant que Stephen peut-être. Ah, tu nous enverras une photo sur le hashtag RMC Live.
Par contre, la différence, c'est que Nico, il avait bronzage intégral.
Ah bah oui, complètement.
Et il confirme en plus.
Bah oui.
Ouais, bon.
C'est ça la liberté.
Ouais, bravo. Nico, alors on le disait, c'était un rendez-vous tout de même important aujourd'hui, ce rendez-vous devant le tribunal de commerce. Et finalement, la réponse est favorable. Homologation des accords entre le club des Girondins et ses créanciers. Tu peux nous réexpliquer tout ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bordeaux. Hein.
Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. En soi, ça va pas permettre à Bordeaux de se maintenir en Ligue 2 dès maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet aux Girondins de faire un pas de plus avec un élément très solide dans leur dossier qu'ils sont en train de constituer avant leur audition devant le CNOSF ce jeudi. Il y avait plusieurs accords qui ont été analysés par le tribunal de commerce de Bordeaux. Une augmentation du capital de 10 millions d'euros par la société de Gérard Lopez, Jogo Bonito. Donc ça, ils ont dit c'est OK. Une réduction de la dette de 40 millions d'euros. Ça, c'était un peu flou parce qu'on se demandait comment c'était possible de voir cette dette réduite de 40 millions d'euros. Et en fait, ils se sont mis d'accord avec leur créancier. Donc ça, le tribunal de Bordeaux a dit c'est bon, le tribunal de commerce. Et il y a aussi 14 millions d'euros qui sont bloqués sur un compte par Gérard Lopez. Si jamais le club n'arrive pas à vendre pour 14 millions d'euros, on viendra piocher dans cette somme. Ça veut surtout dire que le tribunal de commerce de Bordeaux assure que le club n'est pas en cessation de paiement actuellement. Donc ça veut dire que le club tourne normalement. Et surtout que avec ces accords-là, c'est de nature à favoriser la pérennité de l'entreprise. Donc ça, pour le CNOSF, et dans l'optique d'un projet en Ligue 2, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Girondins peuvent complètement assurer leur train de vie, payer leurs joueurs, leurs salariés, leurs charges pendant l'année qui vient et voire plus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle quand même un peu les échéances pour les Girondins. Donc deux jours conciliation avec le CNOSF
jeudi.
Si jamais le CNOSF répond favorablement, il y a le COMEX de la Fédération Française de Football qui doit se réunir en urgence pour statuer. Ça sera début de semaine prochaine. Et derrière, le COMEX rendra sa décision mercredi, jeudi, quasiment à la veille de la reprise du championnat de Ligue 2. C'est-à-dire que si Bordeaux repart en Ligue 2, ils le sauront le 29 juillet, quoi.
Ouais, ça c'est sûr que ça complexifie les choses, Stephen. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Est-ce que tu as encore un espoir pour les Girondins?
Oui, j'espère, même si ça me paraît compliqué, mais en termes de délai, c'est short aussi, parce qu'il y a quand même un championnat à programmer, les calendriers vont être faits, Ligue 2 nationale, c'est pas du tout le même recrutement, donc il faut faire vite. Maintenant, les nouvelles que nous donne Nico sont plutôt positives, à savoir qu'il y a de l'argent un petit peu à droite à gauche, et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de cessation de paiement du côté des Girondins. Maintenant, le CNOSF, est-ce que le CNOSF va retourner la première décision qui a été actée? ça, ça peut être plus compliqué.
C'est toujours le problème, c'est que le CNOSF rend un avis consultatif, donc
oui,
finalement, c'est la décision
pas,
qui revient
pas,
au COMEX de la Fédé, donc c'est quoi qu'il arrive compliqué, et ça sera dur jusqu'au bout pour Bordeaux.
Le truc, c'est qu'on a la sensation que, bon, il y a le dossier financier, bien sûr, mais là, pour le coup, les conditions au niveau financier, elles sont plutôt réunies.
Ouais.
On a surtout l'impression que ce dossier, il se déplace aussi d'un point de vue plus politique, c'est-à-dire que les instances du foot français face à Gérard Lopez, face à Médé, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce que derrière la fédération est capable de déjuger le CNOSF si le CNOSF rend un avis positif? Ça, j'en suis pas forcément sûr. Donc en tout cas, c'est plutôt positif. Voilà. L'avenir des Girondins, c'est pas arrêté ce soir, parce que je vous rappelle quand même que si le tribunal de commerce avait dit les accords qui sont faits avec les créanciers et le club sont un petit peu bidons, c'était le dépôt de bilan.
Merci Nicolas. En tout cas, on te retrouve ce soir dans l'after.
Les
infos sont à retrouver sur rmcsport.fr. Prochain rendez-vous important jeudi avec ce passage devant le CNOSF. 18h06 sur RMC, l'intégral sport, une journée de présentation à Marseille. L'OM a présenté à la presse ses trois premières recrues de l'été. Trois défenseurs, Samuel Gigot, Isaac Touré et Chancel Mbemba. L'occasion pour le président olympien Pablo Longoria de faire le point sur les autres dossiers, notamment celui de l'arrivée imminente de Jonathan Clauss, le Lensois. Julien Mancini a suivi cette conférence. Il est journaliste à BFM Marseille. Il est en direct avec nous. Salut Julien.
Salut Benoît, salut Tiffane.
Salut Julien.
Bon, c'est l'info qu'on attendait tous et c'est la confirmation qui a été donnée par le président de l'OM. Clauss, Blanco et Suarez vont bien débarquer à Marseille dans les prochaines heures.
Alors Clauss et Suarez, ils ont déjà débarqué, hein. Clauss aux alentours de 16h, Suarez ce matin aux alentours de 11h. Pablo Longoria nous a confirmé que pour Blanco, il était en train de faire ses valises et monter dans l'avion incessamment sous peu pour venir passer sa visite médicale. Les visites médicales qui vont s'enchaîner entre aujourd'hui et demain matin pour avoir des officialisations. On nous parlait dans les travées du Vélodrome d'officialiser ces joueurs soit jeudi matin, soit après au retour du stade, les présenter à la presse au retour du stage en Angleterre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on veut faire partir ces trois joueurs en Angleterre avec l'équipe pour préparer au mieux la saison. Il y a trois matchs qui vont se dérouler, notamment en fin de semaine et au début de semaine prochaine. Mais pour Clauss, pour Suarez et pour Blanco, c'est quasiment fait. À part gros soucis à la visite médicale, on est quasiment sûr d'avoir ces trois joueurs à l'Olympique de Marseille à vous présenter d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine.
On précise à ceux qui sont en vacances, qui n'ont pas forcément suivi les dossiers, que Luis Suarez n'est pas l'attaquant de Liverpool et du Barça. Hein, c'est le Colombien qui évolue à Grenade. Hein, donc l'accord qui est tombé hier soir, t'as dit quoi? J'ai pas entendu.
T'as raison de préciser, parce qu'il
n'y
a pas de gens qui sont en vacances. On a pris Suarez, c'est incroyable.
Voilà, c'est ça, et qui débouche le champagne. Bon, dis pas que, évidemment, Luis Suarez, le Colombien qui débarque, est un mauvais joueur, mais.
C'est pas le même niveau.
L'autre est tellement une légende que forcément il faut faire la précision. Qu'est-ce que tu penses de cette accélération? C'est le bon timing? Pablo Longoria a toujours des solutions comme ça de réserve et finalement il avance petit à petit.
On s'aperçoit que Longoria est quand même un petit filou qui fait ça un petit peu en toute discrétion. Écoute, le recrutement sont pas des cadors, mais ça permet de compléter notamment la ligne d'attaque avec Luis Suarez. Défensivement, ça se renforce énormément. Je crois qu'il va avoir 6 centraux, je crois, pour la saison prochaine. Tudor et
défense à 3, donc il veut des solutions.
Et puis Clauss, tu fais venir un international, un jeune international qui a 30 ans, qui a été très bon avec Lens, qui fait 11 passes décisives. Je crois que c'est quand même un arrière droit piston, équipe type de Ligue 1 très porté sur l'offensif. Donc c'est bien, c'est un Français en plus, donc je trouve ça top. Les noms sont pas très ronflants, même si Clauss quand même aujourd'hui est un joueur majeur de Ligue 1. C'est du Longoria dans le texte. Ça fait des coups. La présentation des joueurs, Touré, ça fait un paquet de temps qu'on sait qu'il a signé. Gigot, ça fait encore plus longtemps qu'on sait qu'il a signé, depuis le mois de janvier. Et puis il y a eu cette belle conférence de presse de Chancel Mbemba.
Exactement. Mais ce qui est sympa, c'est de les entendre aussi, les joueurs, les recrues comme ça, marseillaises, démarrant peut-être par Samuel Gigot, qui a un parcours atypique, qui n'a pas fait de centre de formation, qui avait démarré à Arles et qui s'est révélé au Spartak Moscou. Un vrai Marseillais dans l'âme. Hein. Lui, c'est son rêve de jouer à l'OM et il réalise son rêve en quelque sorte aujourd'hui. Écoutez.
Tout d'abord, je veux remercier le président Longoria pour ma venue. Je l'en remercie du fond du cœur. Et c'est une immense fierté pour moi qui est né à Avignon de pouvoir jouer dans le plus grand club de France, à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un rêve depuis enfant. Et de pouvoir le réaliser, je suis très fier. Et j'ai envie de rendre toute la confiance que le président m'a donnée, et le coach, et le rendre sur le terrain.
Ouais, c'était peut-être le plus ému des trois, Julien, Samuel Gigot, parce que lui, c'était vraiment son rêve et il est en train de le réaliser, quoi.
Ah oui, oui, Samuel Gigot, il a grandi à Nîmes, il a joué à Arles-Avignon à l'époque où ils étaient en Ligue 1, donc forcément c'était une émotion particulière pour lui d'être présenté à la presse dans ce stade Vélodrome dans lequel il venait pour quand il était petit pour regarder des matchs. Là, on l'a senti vraiment très 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 ému. Et ce qui a convaincu Pablo Longoria, il en parlait d'ailleurs en conférence de presse, c'est que Samuel Gigot, quand il est arrivé et quand il a commencé les discussions avec l'OM, il a dit moi je veux venir jouer à l'OM, je ferai tout pour venir jouer à l'OM. Et Pablo Longoria, ben ça, on sait que ces joueurs comme ça qui ont envie de mouiller le maillot pour l'OM, eh ben ça lui parle à Pablo Longoria.
Exactement, il a été repéré par Ribalta, lui aussi désormais directeur sportif de l'OM, et qu'il avait observé lorsqu'il jouait à Moscou. Lui, il était au Zénith Saint-Pétersbourg. Il avait conseillé à Pablo Longoria d'aller chercher ce joueur français, Samuel Gigot. Autre présentation, Stephen l'a dit, Chancel Mbemba, hein, défenseur qui était libre depuis son départ du FC Porto. Ça fait sourire Stephen parce que c'est vrai que la polémique qui naît depuis quelques jours, c'est la polémique autour de son âge, Julien. Quatre documents officiels avec quatre années de naissance différentes. Il a répondu à cette question aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on va l'écouter, Chancel Mbemba, sur son âge. Écoutez.
Pour moi, je vois ça comme tout le monde. Il y a beaucoup de trucs, les gens y parlent. Je ne sais pas qui va savoir mon âge, comme moi, comme ma mère, comme mon père. Mais bravo, les gens-là, ils continuent. Moi, je vais faire mon boulot.
Bon, officiellement, il a 27 ans, hein, Julien, c'est bien ça?
Oui, officiellement 27 ans. Après, voilà, il avait affirmé lui être né en 90. On sait pas trop pour Chancel Mbemba. Bon, lui, là, vous l'avez entendu, il a botté en touche. Ça l'a fait sourire. Hein, lorsque je lui ai posé cette question en conférence de presse, il a souri, il a répondu, voilà, avec son air décontracté, un peu en touche. Stephen sera d'accord. Il a fait une petite réponse un petit peu en touche, sans confirmer ni affirmer.
Il a pas dit cet âge. Hein.
Il a pas donné son âge, mais ça a l'air de lui passer au-dessus, même si à Marseille, voilà, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit quand il a signé, quand on a officialisé sa venue à l'Olympique de Marseille. Ça a fait beaucoup de bruit. Ouais. Reste à prouver sur le terrain que l'âge ne fait pas les performances.
Et on retient cette histoire, mais...
Oui, j'ai envie de dire, ça, c'est une petite péripétie. Il faut vite qu'on passe à autre chose. Voilà. L'important, c'est qu'il soit bon sur le terrain et encore plus à l'OM.
Et c'est une opportunité, parce que c'est un joueur libre. Hein, donc, c'était un joueur d'expérience qui vient de Porto. Et c'était un bon coup réalisé, a priori, sur le papier, par Pablo Longoria. Et puis, il y a eu un recrutement différent. Un joueur dont on a parlé il y a quelques secondes, c'est Isaac Touré. Lui, c'est un joueur d'avenir qui vient pour mûrir et s'aguerrir, plutôt, Julien. Hein.
Oui, c'est vraiment. On a eu une conférence de presse avec trois profils très différents. Ouais, vous l'avez dit, Samuel Gigot, le guerrier, le leader qui va haranguer ses coéquipiers. Chancel Mbemba, très très timide, hein, des réponses très courtes en conférence de presse. Et Isaac Touré qui est là, qui nous a parlé d'apprendre, de vouloir s'instruire, d'avoir des visions différentes du football et de ce poste de défenseur central. Même si Igor Tudor là. Titularisé pour les deux premiers matchs de préparation. Il a fait des performances assez satisfaisantes d'ailleurs. Il a été notamment très en vue sur le côté de l'attaque. Mais et voilà, on l'a senti très content d'être là. Il a même d'ailleurs précisé, quand on lui a demandé la question, quand on lui a posé la question sur l'intérêt de Manchester City, on savait qu'à un moment donné, Manchester City s'était positionné sur ce dossier. Il a dit... Je ne refuserai jamais l'OM. L'OM, ça ne se refuse pas. Merci à Manchester City pour leur intérêt, mais l'OM, ça ne se refuse pas. Donc, on le sent très impliqué, Isaac Touré. Et Pablo Longoria l'a d'ailleurs rappelé, hein, il veut construire autour de ce joueur de 19 ans. C'est un jeune joueur auprès duquel il veut construire et poser les bases de cette nouvelle ère de l'OM.
Tiens, bah, écoutons-le justement, Pablo Longoria, sur le projet autour d'Isaac Touré. Je vous le rappelle, 19 ans, 2m04, défenseur central de l'OM.
Ça fait partie du projet d'avoir une valeur de l'effectif qui s'est élevée. Spécialement ici à l'OM, ça doit être d'augmenter les valeurs de l'effectif chaque saison. Je crois qu'avec Isaac, oui, comme avec des autres joueurs, mais c'est très important aussi comme club d'avoir un effectif avec des joueurs qui sont potentiellement transférables. J'ai dit toujours qu'on utilise la vente des joueurs pour chercher toujours d'améliorer le projet. Mais c'est très important comme un club d'avoir toujours des joueurs en propriété. Avoir des joueurs avec de la valeur. Ça, c'est une question que ça part de la santé du club.
Voilà, tu prends un joueur plein de promesses, Stephen, lui permets de mûrir et puis après tu le revends plus cher.
Là, on est clairement dans le trading. Bah oui, Longoria, alors il le traduit avec avec ses propos, mais il est clairement dans le trading. C'est un garçon de 19 ans qui a signé 5 ans et ils espèrent faire monter sa valeur marchande pour faire x3, x4, x5, x10 sur un transfert. 2m04, c'est un profil atypique. Isaac Touré, alors on le chambre
pas très lourd, hein, 75 kilos.
Ouais, ça doit dunker, je pense, au basket. Hein.
Ah oui, ça j'imagine.
Mais avec une vraie carence.
Il est plus grand que toi.
Oui, il est 2 cm. De plus
grand.
Ouais,
c'est dingue.
Je pense qu'on a le même jeu de tête d'ailleurs. Apparemment, c'est pas sa qualité première. Il se fait chambrer d'ailleurs.
Il a un problème de timing apparemment.
Bon, ça devrait. À 19 ans, ça va se corriger, je pense.
Quand tu fais 2m4, t'as quand même un avantage sur les autres.
Surtout sur les corners.
Quand tu seras au duel avec Ben Yedder, a priori, si tu prends pas le ballon de la tête.
Ouais, mais il vaut mieux que le ballon reste en l'air.
Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Bien vu. Non, mais en tout cas, c'est un bon coup de l'OM aussi.
C'est des profils différents. De toute façon, Logan, il a vu. J'ai bien aimé sa conférence de presse parce qu'il dit il y a trois étapes. Ouais, le court terme, c'est les résultats parce qu'ils sont jugés pour ça. Le moyen terme, c'est bien utiliser l'argent du propriétaire. Et le long terme, c'est valoriser l'équipe, valoriser les joueurs pour pouvoir faire des reventes. Donc, Isaac Touré, il est clairement dans la troisième partie de ce projet.
Exactement. Merci Julien Mancini qui était avec nous. Merci Julien.
Merci à vous les gars, bonne soirée.
Bon, c'est pas terminé, hein. On l'a dit, il y a trois accords de principe pour trois futurs joueurs de l'OM, donc Jonathan Clauss, Blanco également et puis Luis Suarez. Donc tu vas revenir rapidement, mon avis Julien, pour nous reparler des présentations de ces joueurs. Ça ferait six recrues donc pour l'OM sur ce mercato. 18h16 sur RMC, Stephen, l'Intégral Sport se poursuit. Justement, on va parler du mercato chaud et cette info qu'RMC Sport est en mesure de vous confirmer. Neymar, le Parisien, a été proposé à Manchester City. City n'a pas donné suite, mais en tout cas, Paris a proposé les services de Neymar, a voulu s'en débarrasser contre d'autres joueurs.
Un trade.
Voilà, c'est de la NBA, tu as raison. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h18 sur RMC avec Stephen Brun. On est là jusqu'à 19h, l'Intégral Sport. Dans un quart d'heure, Stephen va revenir sur la 16e étape du Tour. Hein.
Magnifique étape.
Première fois de l'histoire qu'un Québécois remporte une étape.
C'est beau, Houle. On peut dire qu'il est un peu français ou pas?
Non.
Non, cousin, très bien.
Non, il est non,
ça aurait pu nous faire plaisir.
Toujours pas de victoire.
Matoise, deuxième.
Écoute, je te rappelle que Cyril Guimard, ça s'appelle Morali hier. Et t'as dit, il n'y aura pas de Français sur le podium.
Bah, on a vu que.
Il a
Gaudu qui est cinquième maintenant.
Ouais, Gaudu est cinquième, mais Bardet a craqué.
Ouais.
Il t'a dit qu'il n'y aurait pas de victoire française.
Pour l'instant, il est dans le juste.
Et il t'a dit que le tour était plié parce que Vingegaard était trop fort pour Pogacar.
Il a tout bon, le druide.
Pour l'instant, il a tout bon.
J'ai l'impression qu'il connaît bien le vélo, Cyril Guimard.
51e tour, on le rappelle. 18h19, le mercato.
Le Mercato Show.
Avec Timothée Mémon aujourd'hui. Salut Timothée.
Salut à tous.
Timothée, plus bronzé que toi quand même. Ça, c'est fort.
Hein, bronzage naturel.
Ouais, bronzage naturel, exactement. Timothée, c'est donc l'info qu'on peut confirmer en ce début de soirée. Neymar aurait été proposé par le PSG à Manchester City.
Absolument. En échange d'un joueur des Citizens, c'est ce qu'a tenté de faire le Paris Saint-Germain. On le disait il y a quelques instants, un petit peu à l'image des trades qui se font en NBA. Le nom de Bernardo Silva a été évoqué. Le PSG cherche à dégraisser un peu. Neymar fait partie dans la ligne offensive des joueurs potentiellement transférables. L'opération ne se fera pas. Pep Guardiola a balayé l'idée, ne voulant pas déséquilibrer son groupe.
Donc on ne sait pas non plus si Neymar était d'accord pour rejoindre Manchester City. Ça, on n'a pas l'info pour l'instant. Mais
on n'a pas cette information. Ça paraît difficile d'imaginer que c'est pu être fait totalement dans son dos sans qu'il soit au moins consulté un minimum.
Tu as raison. Qu'est-ce que tu penses de cette info, Stephen?
Mais déjà, on a la confirmation que le Paris Saint-Germain est prêt à se séparer de Neymar. Alors, on l'a vu dans le groupe au Japon impliqué, on l'a vu motivé à dire que cette année tous les coups francs, toutes les frappes allaient rentrer. Mais finalement, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas fait une croix sur le départ de Neymar. Après Bernardo Silva, bien sûr, ça aurait été fantastique puisqu'on parle de ces carences au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Même s'il y a 50 joueurs, il n'y en a pas des fantastiques non plus. Moi, je comprends Pep Guardiola. Je comprends Pep Guardiola qui accueillir Erling Haaland. Si en plus il doit taper Neymar, il y a trop un déséquilibre. On sait que Pep Guardiola, ses équipes, il les contrôle à merveille. Si tu mets Neymar et Haaland, ça me paraît compliqué. Surtout sous Bernardo Silva, qui est quand même le garant du jeu au milieu de terrain de Pep Guardiola.
Exactement. 18h21, on voulait parler de Mostafa Mohamed. Ça y est, on en parle beaucoup en France depuis quelques mois, voire quelques années. C'est vrai que c'est un fantasme absolu. Ça y est, il va enfin débarquer en Ligue 1.
Vous vous souvenez peut-être de son transfert avorté dans des conditions rocambolesques à Saint-Etienne.
Ah oui,
l'Égyptien formé à Zamalek est passé depuis par Galatasaray. Il sera prêté par le club stambouliote pour une saison à Nantes. Un prêt assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros. Mohamed Mostafa, c'est 22 buts en 48 matchs avec Zamalek, 17 buts en 58 matchs avec Galatasaray.
Voilà, et Antoine Kombouaré qui a été écouté, il voulait des attaquants. C'est le deuxième attaquant qui arrive après Evan Guessant qui est prêté par l'OGC Nice. On se renforce offensivement à Nantes,
c'est bien.
Stephen. Ouais,
c'est bien, ouais, c'est très bien. Alors, ils ont à un moment donné, ils ont eu cette utopie de faire venir Milik.
C'était le rêve de Valverde.
Le rêve de Kita. Ouais. Mais écoute, ça me paraît cohérent. Ce que Nantes fait pour la saison prochaine, Nantes qui sera européen. Donc il faut un petit peu du monde devant pour mettre quelques filoches.
On rappelle que Moussa Sissoko est arrivé aussi.
Il faudra le relancer, Mostafa Mohamed, parce qu'il avait frappé très fort à son arrivée à Galatasaray. Mais sur la fin là, de ses 58 matchs, c'était quand même un petit peu,
dire, un peu muet. Et dire que c'est Saint-Etienne qui aurait dû le relancer.
Ouais, écoute. Tiens, bah, parlons de ton club de cœur, Timothée, l'Olympique Lyonnais, qui, ça y est, a trouvé son latéral gauche. D'ailleurs, un nom qu'on connaît bien, hein, Tagliafico, joueur de l'Ajax Amsterdam, international argentin.
Hein. Ouais, l'Olympique Lyonnais, dont les priorités de recrutement semblaient être les ailes, mais qui pour l'heure n'avait recruté que dans l'axe, tient peut-être sa première recrue latérale. C'est l'Argentin Nicolas Tagliafico de l'Ajax qui pourrait s'engager très rapidement avec le club rhodanien. À 29 ans, Tagliafico, c'est une grosse expérience internationale, 40 matchs en sélection, autant de matchs dans les différentes Coupes d'Europe.
Ouais, Tagliafico, c'est un joueur d'expérience. Hein. Franchement, ça serait une belle recrue pour l'Olympique.
Très belle recrue, ouais. Expérience, habitué des matchs de très très haut niveau, ouais. Très bon avec l'Ajax.
Qui a été fantastique lors de leur magnifique saison, on le disait, et cette défaite en demi contre Tottenham.
C'est une belle recrue. C'est une belle recrue.
Ouais. 29 ans seulement. Hein.
On n'est pas sur un international argentin qui arrive à 34-35, qui est en bout de course. Hein. Ah ouais. 29 ans, le mec, il a plein de peps encore.
Exactement. Tiens, parlons d'un joueur dont on parle beaucoup justement depuis des années, espoir du foot mondial, Jude Bellingham. Et là aussi, il y a des grosses écuries qui se sont mises sur lui.
Liverpool et le Real Madrid pourraient s'écharper quant à son sujet. Cible du Real Madrid pour la saison prochaine, Jude Bellingham intéresse particulièrement Jurgen Klopp et Liverpool. Le Real Madrid qui cherche son futur remplaçant à Modric voit en Bellingham le profil parfait, mais le Real n'est pas le seul sur ce dossier. Liverpool, qui a manqué Tchouaméni, ne veut pas passer à côté de Jude Bellingham et s'est déjà rapproché de Dortmund. Ça pourrait bouger assez rapidement dans les jours qui viennent.
Là aussi, c'est un bon profil, milieu offensif très élégant, Stephen. Bon, quand tu as le choix entre Liverpool et le Real, c'est plutôt pas mal quand même.
Oui, c'est le choix du roi. À voir ce que proposent les deux équipes, à voir là où il pourrait avoir le plus de minutes aussi. Quand on a un joueur comme ça de 19 ans, c'est important aussi de savoir ce qu'on propose comme projet, ce qu'on propose comme minutes, parce que le Real, Liverpool, c'est bien, mais si c'est pour passer une saison à jouer des bouts de match ou quasiment pas jouer, c'est moins bien pour une progression quand on a 19 ans. Donc à voir ce que lui proposent les deux clubs.
Une info qui va t'intéresser, toi, le supporter du PSG. Cavani devrait retrouver Unai Emery, c'est pas beau ça.
Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Edinson Cavani pourrait avoir trouvé son point de chute selon Marca. C'est Villarreal qui tient la corde pour faire signer l'international uruguayen. Il rejoindrait donc Unai Emery. Comme les finances de Villarreal ne sont pas au beau fixe, le club a besoin de vendre pour recruter. Dans cette optique, un point de chute est recherché pour Paco Alcacer, qui pourrait faire les frais de l'arrivée de Cavani.
C'est pas mal hein, pour Villarreal et pour les deux même d'ailleurs. Cavani qui se relancerait et puis Villarreal qui fait un bon coup.
Le Matador avec Unai Emery.
Exactement. Villarreal qui a fait une super saison, on les a vus notamment en Ligue des Champions et qui pourrait rester compétitif avec l'arrivée d'Edinson Cavani. Et puis une autre info, on a eu une officialisation il y a quelques minutes. Cette info, elle compense justement le départ de De Ligt. De Ligt qui va signer au Bayern. Timothée, tu veux nous parler de Gleison Bremer qui lui devrait signer à la Juve. A priori, c'est donc le remplaçant naturel du Néerlandais.
Absolument, puisque Mathis De Ligt est officiellement au Bayern. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. C'est maintenant officiel. Gleison Bremer, c'est un gros coup pour la Juve qui va engager le Brésilien de 25 ans du Torino pour remplacer De Ligt en partance pour le Bayern. Le joueur du Toro est considéré comme l'une des valeurs sûres en défense centrale en Serie A. Il n'aura même pas déménagé.
Ah, ça c'est sûr. Quand tu quittes le Torino pour aller à la Juve, bon, ça va.
Ça va, oui, c'est une belle plus-value.
Au niveau du déménagement, c'est pas un problème.
Oui, c'est sûr. T'es pas obligé d'appeler les déménageurs bretons.
Un mot tout de même sur De Ligt, magnifique coup réalisé par le Bayern, hein, Stephen. Hein.
Oui, mais ça fait beaucoup de monde en défense pour le Bayern. Et on se retrouve à poser des questions. Alors, j'ai lu ça à droite à gauche. Le petit Kouassi pour lui, c'est pas une affaire, hein, l'arrivée de.
Ouais, enfin bon. Déjà, il reste sur deux saisons compliquées. Il a pas
mal de joueurs. Il a joué quand même un peu l'année dernière sur la fin de saison. On va pas refaire le débat. Tant qu'il était bien au Paris Saint-Germain, et on lui aurait filé des minutes. Écoute, il a voulu aller au Bayern. Maintenant, il est embourbé, donc je serais pas surpris de le voir transféré.
Et puis allez pour toi, Timothée. Une info qui concerne l'AS Saint-Etienne.
Ouais, en Ligue 2, c'est presque fait pour Cafaro à Saint-Etienne, l'ancien joueur de Reims, qui ne s'est pas vraiment imposé au Standard de Liège, est tout proche de rejoindre les Verts. Le dossier est en passe d'être finalisé. Cela nous a été confirmé. Ce milieu offensif de 25 ans viendra renforcer le groupe stéphanois. Il est dans la droite lignée de ce que souhaite Batles, des joueurs professionnels. profil Ligue 1, Ligue 2, avec une certaine expérience. Et son contrat, ce sera 2 années plus 1 avec option.
Et on rappelle, malheureusement pour Saint-Etienne, la blessure de Dylan Chambost, hein. Fracture au niveau du bras, et du coup, il serait éliminé 1 mois et demi, 2 mois. Donc, c'est bien d'avoir un milieu offensif qui signe et qui peut, pourquoi pas, prendre sa place provisoirement.
Il a été opéré, l'opération a été faite avec succès. Je suis pas allé le voir, je suis allé voir personnellement, mais bon, j'ai envoyé mes encouragements. Voilà. Je suis pas sûr que ça durera aussi longtemps que ça.
Ah, bon, ça va, bonne nouvelle.
Que 2 mois, quoi.
Voilà. Ok, et ben merci Timothée. Toutes les infos transferts à retrouver sur rmcsport.fr. Stephen, t'as été excellent. T'as une expertise football hallucinante quand même. Je t'ai senti sur Jude Bellingham et tout. Bravo. Hein.
Au pipeau.
Ah ouais, encore je me
c'est
disais.
C'est bien d'être honnête.
Ok, c'est bien. 18h27 sur RMC. On va voir si t'es meilleur sur le vélo dans un instant. On retourne sur les routes du Tour de France. On va aller à Foix retrouver Cyril Guimard, débriefer cette 16e étape qui a été remportée par le Canadien Hugo Hull. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Avec Stephen Brun, jusqu'à 19h sur RMC, il est 18h30. On rappelle qu'à 19h, on va retrouver l'équipe de l'After Tour, justement, pour débriefer la 16e étape. Et puis nous, dans 10 minutes, Stephen, on va aller à Eugene, aux États-Unis.
Eugene.
Retrouver Aurélien Tiercin pour les mondiaux d'athlétisme. On va revenir sur la folle soirée d'hier et sur le programme qui vous attend. Pour être honnête avec vous, on devait être en direct avec Mehdi Belhadj. Et bam, contrôle antidopage qui est tombé. Il est bloqué pendant 1 heure. Mehdi qui ne pourra pas être avec nous. Il sera peut-être avec nous demain. Mehdi qui a fait la finale du 3000 mètres steeple hier et qui a terminé 13e. C'était sa première finale internationale. Donc évidemment, on l'aura demain s'il est disponible. Tout de suite, on va retrouver le druide Cyril Guimard qui est donc en direct 2 fois. Salut Cyril.
Salut, salut.
Salut Cyril.
Alors Cyril, événement aujourd'hui. Première victoire d'un Québécois sur les routes du Tour. Hugo Hull, membre de l'équipe Israël Premier Tech, qui s'impose en solitaire. Deuxième victoire d'étape canadienne dans l'histoire. Après Steve Bower, c'était en 88. Il devance donc aujourd'hui Hugo Hull, Valentin Madouas et Michael Woods. On rappelle qu'il y a eu un statu quo général parce que Vingegaard a résisté aux assauts de Pogacar. Est-ce que tu as eu la journée à laquelle tu t'attendais, Cyril, c'est-à-dire une échappée qui va au bout et des favoris qui se contrôlent aujourd'hui?
Oui, alors c'est vrai que dans nos prévisions, on savait qu'une échappée allait partir. Il y avait 113 km avant d'attaquer la première ascension, donc ça n'est pas une surprise. On s'est retrouvé avec 29 hommes à l'avant, donc avec une course à l'avant et puis une course à l'arrière. Mais je dois vous dire honnêtement que c'est pas l'étape qui m'a fait vibrer aujourd'hui.
On s'en doutait.
Ben oui, j'ai presque envie de dire, et c'est pas manquer de respect au coureur qui l'emporte, Hugo Hull, mais elle a accouché d'une souris.
Ouais.
Hugo Hull qui l'emporte, et c'est très bien pour l'histoire, pour le fun, pour tout ce que l'on veut. Mais voilà un coureur qui n'a pas gagné une course et qui vient gagner une étape du Tour. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un bon coureur, pas du tout. Mais on attendait autre chose de cette étape. Et puis attendez, on a eu deux banderies de Pogacar. À un endroit, il pouvait rien se passer, c'est-à-dire que il a attaqué pour le fun. Quand il attaque dans le final du premier col, Vingegaard, il a tous ses équipiers, il a en plus une équipe de réserve devant avec Wout van Aert, plus Van Hooydonk. Il va chercher quoi? Comme il a dit qu'il attaquait partout, il te met 2 petites banderies en disant bah voilà, j'ai ouais, attaqué.
Pour la forme, quoi.
C'est j'ai presque envie de dire c'est pas beau. Mais c'est pas beau quand tu joues la gagne du Tour, tu t'amuses pas à balancer des petites banderies pour faire croire
même
que...
lui en attaquant, il y croyait pas quoi. Ouais.
Attends, l'autre il a même pas tremblé hein.
Ah ça c'est sûr.
Mais en plus il peut rien se passer. Vous avez la descente derrière. Vingegaard, il a tous ses équipiers autour de lui, ceux qui restent, puisque bon, on sait que un certain nombre d'équipiers sont rentrés à la maison pour des raisons que vous connaissez.
Ouais.
Mais il a même pas sourcillé, il l'a même laissé prendre 20 mètres.
Mais comment tu expliques, Cyril, le scénario de la journée qu'on vient de vivre? C'est lié à la chaleur, c'est lié aux grosses étapes qui reviennent demain, les dernières difficultés avec l'école dans les Pyrénées. C'est quoi l'explication?
Non. Et puis, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter d'accuser le monde entier sur les choses telles qu'elles se passent. La chaleur, elle est là pour tout le monde. On est sur le Tour de France. Et aujourd'hui, attendez, on n'avait pas des canicules qui dépassaient l'entendement. On avait des températures normales. Et puis bon, quand vous savez que vous êtes à 1500 mètres, il y a quand même moins de degrés qu'au bord de la mer à Marseille. Quoi. Donc, on a des températures qui sont chaudes, oui, mais elles sont vraies pour tout le monde. mais c'est le déroulement de la course qui moi m'a gêné aujourd'hui. Okay. À aucun moment j'ai eu de l'émotion, à aucun moment j'ai vibré.
Le seul moment où
on a eu ici dans notre petit studio sur la ligne d'arrivée où on a eu un petit pincement au cœur, c'est quand Romain Bardet a littéralement explosé. Je suis pas sûr qu'il reparte d'ailleurs demain. Si les explications qu'il donne
sont
réelles, ça veut dire qu'il a soit il a le Covid, soit il a la grippe, quoi.
Alors je rappelle que c'est l'enseignement de la journée, c'est quand même le grand battu du jour, Romain Bardet, qui était quatrième du général, qui a été à la dérive évidemment aujourd'hui. Il a perdu 3 minutes 30 au général. Quelles ont été ses explications? Il se sent dans un état grippal. Ouais, c'est pas bon signe ça pour la suite, Cyril, hein.
Bah, surtout avec le menu de demain, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Et c'est vrai que c'est pas rassurant et c'est quelque chose qui pour lui ou pour d'autres. Mais bon, il a déjà abandonné le Giro à mi-parcours en étant malade. Si là, il est obligé de requitter le Tour, alors qu'il était parti pour une très bonne année. Rappelons-nous à quel niveau il était arrivé au Giro. Mm-hmm. Là, il a été un moment deuxième du classement général. Il jouait pour le podium et malheureusement, il est même neuxième. Je sais même pas s'il finira dans le top 10, quoi.
En plus. Ouais.
Pour moi cette étape là
à oublier.
Autant quand on a eu l'étape du Granon, on a dit c'est une étape de légende, elle restera dans l'histoire du Tour. Celle-là va vite disparaître aujourd'hui, hein.
Voilà. Bon, on va vite passer à autre chose. T'es d'accord avec Cyril?
Entièrement d'accord. Moi je me suis ennuyé. Cyril a entièrement raison. Pogacar il nous pipote en fait. Est-ce qu'il essaye de mettre un truc dans la tête de Vingegaard avec ses déclats, je vais attaquer et au départ de l'étape, Vingegaard et son équipe, ils sont attention, ça peut partir à tout moment. Il nous a pipoté, il a fait deux fausses attaques. Est-ce qu'il se dit, finalement, je ne vais pas y arriver parce que l'autre est trop fort? Ou, et ça serait très fort qu'ils disent, moi j'attends le dernier moment, les deux vins, je vais les récupérer sur demain ou vendredi et sur le contre-la-montre. Et là, ça serait, alors là, chapeau bas, hein, s'il y arrive. Mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Ou alors, tu abdiques et tu dis, j'accepte d'être deuxième parce que j'ai eu une défaillance et l'autre est meilleur.
Ouais.
Tu tentes des trucs, il a rien tenté. Après, Cyril, la petite excitation qu'on a pu avoir, alors l'excitation elle est un petit peu triste, celle de Romain Bardet, mais il y a la course de David Godu quand même qui a été intéressante.
C'est cinquième au général désormais, ouais.
Oui, mais la course de Godu, elle est en défensif total, puisqu'il est en difficulté à chaque fois qu'il y a eu des attaques, des accélérations. Alors, il a parfaitement géré, on va pas dire qu'il a mal couru, au contraire, il a bien couru, mais il était limité, il pouvait pas faire mieux. Il a fini par rentrer dans la descente. D'ailleurs, il l'a dit après l'arrivée, mais ça nous on le savait déjà. Si Wout van Aert il fait la descente avec Vingegaard dans la roue, David il rentre jamais.
Ouais.
Parce que David peut pas descendre aussi vite que van Aert, quoi. Donc van Aert il a fait une descente tranquille. Voilà, on prend pas de risque, mon leader est dans ma roue, tout va bien, on va aller tranquillement à foi. D'ailleurs, on a foi en nous. Donc tout va bien. Pogacar n'a pas pu attaquer dans la montée, et pour cause, parce qu'il n'avait pas les moyens. Parce que si on joue pour gagner, on n'attaque pas dans le premier, ou alors on fait monter des équipiers, mais ils n'en ont plus. Là, quand on est dans le 18%, on met l'aiguille dans la boîte à gants.
Alors, Cyril, on va vite se projeter sur la journée de demain, parce que là, on a vraiment une étape spectaculaire sur le papier.
J'espère qu'elle sera spectaculaire.
Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Saint-Gaudens-Péragude, avec le col d'Aspin, la Hourquette dans 6 ans, le col d'Azé. C'est peut-être là l'ultime chance, mais s'il en reste une, toi t'es pas persuadé, mais c'est peut-être là l'ultime chance pour Pogacar d'aller inquiéter et inverser la tendance par rapport à Vingegaard dans la course en maillot jaune.
Oui, c'est l'ultime chance quand on voit la facilité de son adversaire direct, le maillot jaune. On a quand même 4 cols qui sont là. Maintenant, c'est bien beau de dire on va attaquer, mais encore il faut pouvoir, il faut avoir les jambes pour. Et attaquer sur quel col et à quel endroit et comment, voir comment la course va se dérouler, combien il restera d'équipiers autour de Vingegaard. Rappelez-vous, on avait dit en arrivant dans les Alpes, si on veut battre Pogacar, il faut l'isoler. quand il n'aura plus d'équipier, là, il est une proie facile. C'est ce qui s'est passé dans l'étape du Galibier et la montée du col du Granon où Pogacar, il a explosé. Bon, en faisant aussi quelques erreurs, parce que quand on se prend une fringale, c'est pas de la faute du voisin. Hein.
Ouais.
Mais il avait tiré un petit peu trop sur la pompe dans la montée du Galibier. Il a explosé en plein vol dans la montée du Granon. Parce qu'on l'avait aussi isolé. Bon, aujourd'hui, comment vous faites pour isoler le maillot jaune aujourd'hui? Il a plus d'équipiers que vous, il marche mieux que vos propres équipiers. Vous attaquez où? Donc il attaque dans le mur de Peyragudes dans le final, et là qu'est-ce qu'il va reprendre? Au cas où il est plus fort, il va reprendre quoi? 20,
bon, ça sera
30
un peu tard. Il faut attaquer un peu avant, a priori.
Ouais, mais si t'attaques avant, t'es mort. Bah, je suis désolé.
Il nous casse le moral, Cyril.
On a quand même l'impression que tactiquement, Jumbo-Visma est à des années-lumière de UAE et de l'équipe de Pogacar.
Oh, ouais, mais il y a un problème de qualité aussi, Stéphane.
Il y a un problème de qualité, certes. Je vois encore l'étape d'aujourd'hui, Van Aert qui part devant, Van Luydonk est encore là. J'ai l'impression que UAE se dit Pogacar est tellement fort tout seul qu'il va y arriver tout seul.
Oui, enfin, bon, c'est pas. On peut le dire sous cette forme-là. Mais on peut faire une stratégie quand on a les hommes pour la faire. Quel que soit le sport.
C'est ça, voilà.
Dans ton sport, tu dis, bon, attends, on va mettre tel système de jeu en place, etc. Mais t'as pas les joueurs pour le faire.
C'est vrai.
T'as pas les joueurs pour le faire. Alors, tu vas attendre que les autres se déconcentrent un petit peu parce que c'est un peu trop facile, puis tu vas remettre 3-4, tu vas aller te chercher 10 ou 15 points, et puis quand ils vont resserrer le jeu, t'es mort. Bon. Eh bien, là, c'est la même chose. On peut pas mettre de stratégie si on n'a pas la puissance. Si on n'a pas la puissance collective et ton leader qui a le petit cran au-dessus, tu fais rien, tu subis. Alors après, tu fais tout comme on l'a dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, on met deux petites pichenettes là dans le premier col pour faire croire que.
Ouais.
Et puis derrière, on se calme, on donne plus un coup de pédale jusqu'à l'arrivée.
Exactement, tu vois.
Et demain, je suis désolé, tu veux attaquer dans un spa? Bah tu peux, hein, pas de problème. Hein. Pogacar, il attaque dans Aspin. Si moi je suis directeur sportif de Vingegaard, je demande à tous mes coureurs de freiner. Hein. Puis je le laisse partir tout seul.
Parce que tu penses qu'il aura
pas. Parce qu'il va se cramer. Parce qu'il va se cramer. Il y a tellement de
difficultés. Il prend un quart d'heure.
Mais je sais pas. On me vend Pogacar comme étant un extraterrestre. Donc je me dis un extraterrestre. Il est capable demain de tout faire péter très tôt et d'aller finir en solo, non?
Non, mais ça, comme je dis des fois à Christophe, qui essaye de nous imaginer. Attends, moi, je vends pas du rêve. Je vends que de la réalité.
Voilà. Pense à Stephen.
Rappelez-vous dans le tour 86, Ino Lemon.
Oui.
Bon. Lemon est piégé par Ino dans l'étape qui arrive à Pau. Il s'en prend 5 minutes. Ino était parti avec Jean-François Bernard et Delgado. Et le lendemain, il y avait une étape avec le Tourmalet et on finissait. On avait Aspin derrière, etc. Bon. Et on finissait à Super Bagnères. Le blaireau, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il sort à Sainte-Marie-de-Campan. Il a Aspin, Persourde et la montée en haut. Et il est maillot jaune. Tout le monde l'a laissé partir. Puis les Colombiens se sont mis en route derrière. Il arrive avec 4 ou 5 minutes au pied de la montée de Super Bagnères. À l'arrivée, les 5 minutes qu'il avait pris à Lemon, il les avait perdues parce qu'il avait explosé complètement. Et,
oui, parti seul.
Et il s'appelait Bernardino.
Voilà.
Mmh. Pense à Stéphane. Enfin, Bernardino, c'est un peu plus faible que Tadej Pogacar.
Oui, c'est ça, chauffe Cyril, vas-y. Ça le fait rire.
Ah, mais il va être content, le blaireau, quand il va attendre.
Non, mais t'as raison, Stéphane. Pogacar, il a un Ino dans chaque jambe. Bravo. N'est-ce pas Cyril là, c'est
non, dans chaque doigt de pied.
Sinon, Cyril, hier, tu nous as vendu pas de Français sur le podium. Là, Gaudu, 5e à 1 minute 39 de Geraint Thomas. C'est toujours mort pour le podium ou pas?
Ah oui, là pour l'instant c'est mort, oui.
Très bien.
Voilà. C'est mort parce qu'il va prendre deux minutes contre la montre.
Voilà. Bon,
donc vous rajoutez 2 minutes. Donc il faudrait que dans les 2 étapes qui viennent, David reprend 4 minutes, voire 4:30, voire 5 d'ailleurs, ce serait plus sûr. À Geraint Thomas.
Bon, on
alors qu'aujourd'hui, il a été Il a été moins fort, il a bien géré, mais il était moins fort que Geraint Thomas.
Il faudra bien suivre l'étape de demain, quand même, rassurez-vous.
Mais
là,
tout peut changer d'un jour à l'autre.
Il n'a pas vécu une grande journée de vélo, ça ira mieux demain. Magnifique étape sur le papier entre Saint-Gaudens et Péragude. Et d'ailleurs, l'after tour revient dans un quart d'heure sur le RMC avec Christophe Cessieux.
Il y a quand même un after tour après une étape.
Oui, évidemment, évidemment. Bon, oui, on peut raconter des choses quand même.
Avec Cyril, il y a toujours des trucs à raconter.
Et je compte sur Christophe pour mettre une pièce, évidemment, dans le druide. Comme ça, ça marche toujours. Merci Cyril.
Merci Cyril.
À tout à l'heure.
C'est vrai.
Allez, à tout à l'heure. 18h45 sur RMC Intégral Sport. Dans un instant, direction Eugene, les championnats du monde d'athlétisme. Retrouvez Aurélien Tiercin. On va vous présenter le programme de la soirée, notamment un 400 mètres et qui s'annonce fabuleux avec un Français. À tout de suite sur
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h50 sur RMC Intégral Sport avec Stephen Brun dans 10 minutes. L'after tour avec Christophe Cessieux et le long débrief de Cyril Guimard sur l'étape d'aujourd'hui. Il s'est régalé, Cyril. T'as entendu ça?
Très content.
Une journée à oublier pour le druide. Voilà, ça lui a pas plu.
Il est chapeau. Ouais, il était chapeau. Il peut pas pipoter Pogacar. Il peut pas pipoter Cyril Guimard.
Ouais, ça l'agace. Bon, même si Pogacar, il a un hino dans chaque jambe, on lui a dit.
Deux même.
Deux.
Deux Hino plus un Guimard même.
Voilà, exactement. Bref, on compte sur Christophe Cessieux pour relancer le druide. On file tout de suite à Eugene, sixième journée de compétition au Mondial d'athlétisme. Aurélien Tiercin qui est en Oregon. Salut Aurélien.
Hi guys, ça va?
Ah, il est là.
Hi guys. Hi guys. How are you, Aurélien?
Fine and new. Et ça, c'est un truc de fou. Hein. Tout le monde nous demande comment ça va, mais ils n'écoutent pas la réponse.
Tu sais que bon, aux États-Unis, il a raison. Tu vas dans les hôtels, tu passes devant la réception 12 fois. 12 fois, il dit How are you guys? How was your day? Et après, tu réponds, ils s'en foutent en fait.
Bah, c'est vrai, mais.
Ouais, c'est ça. Moi, vous avez raison. Au début, je voulais répondre et puis j'ai arrêté.
Il vaut mieux être à Paris où personne dit bonjour.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, là, il y a les deux extrêmes. Moi.
Bon, alors, revenons sur la journée d'hier, Aurélien, avec deux stars de l'athlète qui ont illuminé justement cette soirée de compétition. Yulima Rojas, évidemment, sur le triple saut. C'est vraiment celle qui domine la compétition de la tête et des épaules. Et puis évidemment, Moutaz Essa Barchim, qui lui est la légende du saut en hauteur, hein, Aurélien.
Ouais, exactement. Bah, deux palmarès de fou. Ouais. Rojas qui a remporté sa troisième médaille d'or au championnat du monde avec un saut à 15m47. Et on aurait pu penser qu'elle allait chatouiller son propre record du monde de 15m74. Elle les avait dans les jambes. Mais malheureusement, elle a fait une très mauvaise planche à son sixième et dernier essai. Mais elle est allée très très loin. On pense que ça tombera de toute façon cette année ou un peu plus tard pour Rojas.
Parce qu'elle est championne du monde, mais elle est même pas satisfaite de sa performance, hein. C'est ce qu'elle disait après.
Oui, parce que pour elle, finalement, 15m47, c'est pile dans la moyenne. Alors, c'est 60 cm de mieux que la médaillée d'argent, mais vraiment, elle surdomine la compétition. Ouais, c'était la Jamaïcaine Ricketts, deuxième, et en bronze, Tori Franklin, l'américaine. Mais Rojas, elle est vraiment toute seule dans sa discipline. Et puis, Barsim, sur le saut en hauteur, lui aussi, troisième titre mondial. Lui qui est champion olympique en titre à Tokyo, il a réussi, entre guillemets, simplement 2m37 et il a réussi. Alors lui, il avait un petit peu plus de concurrence avec le sud-coréen Wu et l'ukrainien Prontsenko. Ça a été un concours assez sympa. Et d'ailleurs, Barchim qui a réussi à enflammer, parce que vraiment, Eugene, on le dit depuis le début, mais c'est un vrai public de connaisseurs.
Ouais.
Et parfois, il y a des concours comme ça qui passent un peu dans l'anonymat dans les grands stades. Mais là, ils ont mis le feu et Barchim, il a un look un peu particulier avec une casquette qui est 6 fois trop grande pour sa tête et des grandes lunettes presque de ski. Mais il
surtout,
a vraiment.
Qu'est-ce qu'il est beau à avoir sauté. L'impression de facilité.
Vitesse de pied. Ouais. Comme il retranscrit la vitesse de sa course d'élan sur le dernier appui pour monter, bon, c'est fantastique.
Tu me disais avant l'émission, lui doit bien dunker.
Ah ouais, lui doit dunker avec le dos en fait. c'est impressionnant. Mais les deux ont un peu le même morphotype, très grand, fin, élancé. Et Rojas, elle me régale. Avant chaque essai, elle se parle à elle-même, elle s'encourage. Elle est fantastique, exactement.
Ouais, c'est assez sympa à suivre.
Aurélien, attends, j'ai une petite question pour
Aurélien. Oui, vas-y.
Il était où l'Italien qui a partagé le titre olympique avec Barchim cette année?
Moyennement en forme, Gianmarco Tamberi. Déjà, il n'avait pas les cheveux peroxydés, il n'avait pas la moitié de la barbe rasée comme d'habitude. Il a passé les qualifs limite en passant de 2m33 son dernier essai. Et puis là, en finale, il s'est arrêté relativement tôt par rapport à son talent. Mais bon, laisse-moi vérifier, mais il termine 4e ou 5e.
Ouais,
4e avec 2m33. Il n'en avait pas dans les chaussettes pour cette année.
Ouais, bon, parlons également des performances françaises et de celle de Mélina Robert-Michon. C'était son anniversaire hier, 43 ans, et elle s'est offert une 8e finale mondiale. Quelle histoire, celle de Mélina Robert-Michon, hein, Aurélien.
Ouais, bah là, ce sont ses 9e mondiaux. Mélina Robert Michon, bah, longévité exceptionnelle, 24 ans de carrière, et elle avait quand même un goût de revanche après son élimination pour 40 centimètres en qualification à Tokyo. Et bah là, Mélina Robert Michon s'est qualifiée limite avec 61 mètres 21. Elle n'a pas passé la barre fatidique des 62-50 qui l'aurait qualifiée directement en finale, mais elle a été repêché puisqu'il faut 12 finalistes. Donc Mélina Robert-Michon sera bien en finale du lancer de disque, et on peut l'écouter d'ailleurs, Mélina, ouais, Robert-Michon, qui avant la compétition nous donnait son sentiment et sa volonté de revanche, justement par rapport à l'élimination de Tokyo qui lui a fait beaucoup de mal.
Voilà, ça a été très très dur. On a vraiment abordé cette saison comme vraiment une construction pour des bases solides pour la suite. Parce que bah, la suite, c'est vraiment l'objectif. Il est toujours clair, c'est pour Paris. Donc, il valait vraiment qu'on reparte sur des choses solides pour que ça se remette en place, que je retrouve confiance, que je restabilise tout, que je retrouve des sensations que j'avais un petit peu perdues. Donc, mais là, vraiment, je sens que voilà, toutes les pièces sont en train de s'imbriquer et du coup, voilà, je me sens compétitive en tout cas.
L'objectif Paris 2024 pour Mélina Robert-Michon, qui aura 45 ans.
Voilà, c'est beau, c'est magnifique.
Dernière échéance avec des Jeux Olympiques à domicile. Parle-nous du programme de la soirée, surtout le français que l'on attend, c'est Wilfried Apio qui ne cesse de nous surprendre sur le 400 mètres et ce sera une finale très disputée, mais il a peut-être une carte à jouer, Aurélien.
Bah, on croise les doigts. En tout cas, il aura une belle course à faire, Wilfried Apio, qui s'est qualifié vraiment de manière magnifique en finale. Dans sa demi, il était avec Carsten Warholm, le recordman du monde norvégien, qui est un autre ultra phénomène de l'athlée mondial. Wilfried Apio, avant la compétition, il voulait casser la barre des 49 secondes sur le 400 haies. Ouais. Il y est parvenu magnifiquement. Il a battu son record perso en 48 secondes 14. Carsten Warholm, il a cassé la barrière des 46 secondes. Donc là, il court plus vite que pas mal de coureurs sur 400 plats. Donc voilà, c'est un phénomène. Et à part Warholm, il y a aussi l'Américain Ray Benjamin qui lui aussi court en 46-10, 46-20. Et puis le Brésilien Alisson dos Santos qui court dans les mêmes eaux. Donc on a vraiment trois monstres. Okay. Trois invincibles. Wilfried Apio, on pense qu'il avait un petit peu relâché son effort en demi-finale. Il pourrait casser lui la barre des 48 secondes. Ça serait vraiment magnifique. Il est encore tout jeune, Wilfried Apio. Il a 23 ans, le gamin de Bourg-la-Reine. Mais voilà, pourquoi pas. Après, les haies, on l'a vu au 110 mètres haies avec Daniel Roberts, le champion des États-Unis, ou même Sacha Zoya qui a tapé beaucoup de haies. Et ben, si t'en tapes une, tu peux tomber, tu peux ralentir et ça peut donner quelque chose de fou. Donc Wilfried Apio, son objectif, on peut l'écouter aussi, de passer devant ces méga stars du 400.
C'est clairement une chance parce que je pense que ces gens-là permettent aussi de faire briller la discipline en elle-même. Le 400 mètres, c'est sûr, c'est pas le 100 mètres, on va pas se mentir. Hein, donc d'avoir des monteurs comme ça, surtout de ma génération et tout, ça rend la discipline plus belle. Et maintenant, côté sportif pour moi, c'est sûr, ça va me demander de beaucoup plus d'efforts que si il n'y aurait pas eu autant de niveau. Je suis bon joueur et c'est tout bon pour nous, quoi.
Voilà, Wilfried Apio qu'on attend sur le 400 mètres et la finale. Stéphane.
Ouais, et Stéphane Diagana va commenter Wilfried Apio. Il va peut-être trembler parce que le record de Diagana, 47-37, il va peut-être tomber un jour ou l'autre.
Et on va suivre ça. Et bah voilà, ce sera l'événement de la soirée côté français pour ces mondiaux de Eugene aux États-Unis. Merci beaucoup, Aurélien Tiersin. Évidemment, bonne soirée. Et on se retrouve dès demain dans l'Intégral Sport. J'en profite pour vous annoncer le cadeau exceptionnel que vous propose RMC Running pour la rentrée. Ça te concerne, Stéphane, si tu veux. Un dossard pour le marathon mythique Nice-Cannes. En plus de ça, on vous fournit votre plan d'entraînement et on vous fournit également la tenue complète RMC Running. On cherche 4 profils différents, 2 hommes, 2 femmes, avec des objectifs là aussi différents. Si vous voulez tenter votre chance, vous allez sur les réseaux sociaux justement d'RMC Running, Twitter, sur Instagram et sur le club RMC Running sur Strava, et vous candidatez. Voilà, on va sélectionner des gagnants et on met en place votre préparation pour Nice-Cannes.
C'est sympa.
Trop dur pour toi, ça.
42 km ?
Ouais.
Trop dur pour moi. Gabarit 2m02, 110 kg, même avec l'entraînement, je peux pas. C'est trop long. Ouais, j'ai pas un gabarit et un morphotype pour faire ça.
Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, on va penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Christophe Cessieux, qui est avec nous d'ailleurs pour la fin.
Ou Jeannot,
c'est
qui?
C'est chez toi en plus, Christophe, Niska. Non, tu pourrais le faire.
Ah oui, non, mais j'offre un Combania à celui qui va remporter.
Elle est plus à la dire.
Voilà, génial. Bon, bah super. On peut pas compter sur les Niçois, Alain Marchal et Christophe Cessieux, quoi.
Non. Bon. On ira se baigner, on vous attendra quand vous courrez, on vous regardera, on vous applaudira de l'eau.
Ça marche.
T'inquiète pas.
Christophe, l'after tour, une étape qui a régalé Cyril Guimard. hein. Ouais, il a ronchonné toute la journée, le druide. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il court à l'envers et c'est Français qui attaquent n'importe comment et Pogacar qui attaque n'importe comment. Il était ronchon aujourd'hui. Voilà, il a connu une journée sans, un peu à l'image de Romain Bardet, malheureusement, qui dégringole au classement général. On va y revenir. Va-t-il pouvoir s'accrocher encore dans ce Tour de France et espérer quelque chose? On reviendra donc sur les petites banderilles plantées par Pogacar qui n'ont pas vraiment fait mal à Vingegaard. Et puis on s'intéressera donc à ce Québécois nommé Hugo Hull, un obscur du peloton qui s'impose dans la plus grande épreuve du monde. Une histoire incroyable que va nous conter Pierre-Yves Leroux. C'est dans un instant et c'est jusqu'à 20h et ça s'appelle l'After Tour. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, à tout de suite.